Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h46, les grands débats du matin ce matin. Elisabeth Lévy, Lydia Guérousse, vos appels comme tous les matins, 0826-300-300. On va revenir sur deux sujets importants, hein, le pardon d'Emmanuel Macron aux harkis et les annonces éventuellement d'un projet de loi de reconnaissance de réparation, ce qui est important pour certains. Oui. Beaucoup sur les réseaux sociaux, puisqu'on pose la question aujourd'hui, nous parle forcément d'un enjeu électoral derrière, une espèce d'hypocrisie.
Oui, ça c'est vrai, on va voir. Je tiens aussi à vous dire qu'il y aura Serge Raffi, hein, qui sera avec nous tout à l'heure, qui a écrit donc sur Anne Hidalgo, une biographie assez intéressante.
Une ambition qui vient de loin.
Oui, qui vient de loin. Et on voit effectivement derrière, Serge Raffi parlera et débattra évidemment de toute l'actualité politique, parce qu'il la connaît parfaitement évidemment, mais qu'elle est quand même extrêmement déterminée. Hein, à lire, ça se voit que c'est pas venu comme ça un peu par hasard. Quoi.
Et le troisième sujet ce matin, c'est la crise des sous-marins, avec le discours de Jean-Yves Le Drian devant l'ONU, qui évoque une crise de confiance entre les États-Unis et la France. Vous voulez en parler? On vous attend au standard 0826-300-300.
Oui, Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy, est-ce que ce geste était attendu par la communauté harkie, tout de même, Lydia Guérousse? Est-ce que vous suspectez une arrière-pensée électoraliste d'emblée, ou vous dites quand même, on en parle déjà depuis un petit bout de temps, il y avait eu un rapport qui avait été demandé par exemple à Benjamin Stora?
Non, mais le traitement des harkis a quand même été indigne, hein. C'est quand même une marque indélébile qui reste sur la République. Et c'est vrai que les harkis ont été en partie abandonnés, certains sont morts massacrés, et ceux qui ont été accueillis et sauvés ont été accueillis dans des conditions plus que lamentables, dans des bidonvilles. Donc il y avait besoin de cette réparation. Mais Emmanuel Macron n'est pas le seul président de la République à avoir fait un geste envers les harkis. Il y avait eu Nicolas Sarkozy, il y avait eu Jacques Chirac également. Enfin, il y a déjà
François
eu
Hollande
des François Hollande, pardonnez-moi de l'avoir oublié. Mm-hmm. Il y avait déjà eu des gestes. Là, c'est encore un pas de plus. C'est historique. C'était important. Mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'à quelques mois de l'élection présidentielle, alors que c'est un électorat important, clé, notamment à droite, qu'il y ait une petite arrière-pensée électoraliste.
Ouais, c'est aussi votre sentiment, Elisabeth Lévy ?
Oui, moi je suis un peu plus sévère d'abord.
Ah,
oui,
voilà.
On va voir ce projet de loi, mais pardon, vous venez de le dire, Lydia, et vous avez oublié Georges Pompidou, hein,
qui
avait aussi fait quelque chose. Donc ça fait quand même assez longtemps, si vous voulez, qu'on a reconnu que les chefs d'État ont reconnu la faute de la France vis-à-vis des harkis. Donc là, je ne vois pas, à part les trémolos dans la voix, je ne vois pas quelque chose de radicalement nouveau. Alors, on verra ce qu'il y a dans le projet de loi, mais excusez-moi, c'est ce que j'ai dit dans ma chronique. D'abord, à 7 mois de la présidentielle, c'est un peu du foutage de gueule, pardon. Et par ailleurs, moi, je trouve que...
Mais on ne fait plus rien à ce moment-là, alors. À 7 mois, un an de la présidentielle, on ne peut plus rien faire.
C'est quand même étrange qu'à 7 mois de la présidentielle, tout ce qu'il fait consiste, si vous voulez, à distribuer soit des mesures symboliques, soit des mesures financières aux uns et aux autres. Et par ailleurs, si vous voulez, ça c'est la grande manie d'Emmanuel Macron, de toute façon, c'est qu'il veut être gentil avec tout le monde. Donc, c'est ça qu'il appelle peut-être la réconciliation des mémoires, si vous voulez, c'est à coup, je dis, c'était plutôt pour le camp des anticolonialistes, un coup quasiment pour le FLN. Enfin bon, moi je peux plus supporter en fait cette politique du en même temps. Si vous voulez, parce que ça veut dire un peu dire à tout le monde ce qu'il veut entendre, et ça, je trouve ça vraiment agaçant.
Oui. Patrick de Fréjus nous appelle au 0826 300 300 et veut réagir sur ce sujet. Bonjour Patrick.
Bonjour Patrick et bonjour à ces dames que je suis régulièrement à la télévision.
Eh ben voilà, c'est ça.
Bonjour monsieur.
Alors, je dirais que j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce que vous avez dit, mais moi je veux dire quelque chose. Je suis un fils de pied noir, je suis rentré, j'avais 9 ans, et depuis quelques années, je suis complètement motivé dans une association entre Fréjus et Saint-Raphaël, où nous avons 2 maires qui nous aident. Et samedi, nous sommes pour déposer les gerbes pour le 25 septembre. J'ai eu mes copains harkis, bien sûr, au téléphone. Ils ont tous refusé de monter à Paris. Ils n'ont aucune confiance en Macron. Macron, c'est l'homme qui nous a dit tellement de choses à nous, les pieds noirs, et aux harkis, et il est contre nous, Macron. Donc, c'est faux. Tout ce qu'il fera, de toute façon, il n'aura pas une voix d'harkis. Ça, c'est faux, pas rêver. Puis les pieds noirs n'en parlons pas. Alors là, il n'y aura pas de voix de pieds noirs. Donc, Macron, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire de la mousse, ça ne marchera pas. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, à notre petite échelle, d'association de Fréjus Saint-Raphaël, de défendre la mémoire des harkis. Donc, on est là deux fois par an. On fait ça dans deux villes. On fait des meetings, on fait des choses. Et les harkis, ils apprécient. Il n'y en a pas beaucoup. Ils arrivent de plus en plus. Mais ils arrivent quand même. C'est ça qu'ils veulent. Les histoires de Macron, il ne faut pas rêver.
Oui, mais il y a aussi une réparation matérielle. Au-delà de la reconnaissance, bien sûr, aussi morale, il y a la réparation éventuellement matérielle.
Ça fait 40 ans. Mon copain m'a dit, écoute, ça fait 40 ans qu'on discute, qu'on est autour d'une table ronde. Ça fait 40 ans. Ils n'y croient plus. Et puis, venant de Macron, l'homme qui est allé mettre une gerbe aux... C'est Darmanin, pardon. Qui est allé mettre une gerbe au FLN, qui n'a même pas été sur la tombe de nos parents en Algérie. Attendez. Non, mais il nous prend pour qui? Franchement, il nous prend pour qui? On n'est pas des enfants de cœur. Ouais. On a compris. Et les harkis, ce n'est pas des imbéciles. Lydia, elle le sait, Lydia. Elle sait bien que on ne sait pas des imbéciles, ces gens-là. Ils ont les yeux ouverts. Ils ne sont pas bêtes. Attendez. Ils ne sont pas bêtes.
Lydia, alors, qui a interpellé. Et puis ensuite, Elisabeth. Ouais. Patrick, restez avec nous. Et puis, vous pouvez continuer d'appeler 0826-300-300.
Hein. Évidemment que les harkis et les pieds noirs ne sont pas des imbéciles. Évidemment qu'une partie d'entre eux comprend qu'il y a
une petite... Vous êtes d'origine algérienne. Hein,
donc, oui, je suis d'origine algérienne, mais pas harkis. Oui, et comprennent qu'il y a une arrière-pensée électoraliste derrière. Et c'est assez... En fait, c'est le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a... Si on a un peu de mémoire, eh bien, il y a toujours des contradictions. Il est toujours en train de danser d'un côté puis de l'autre. Alors, c'est vrai qu'il s'est déplacé en Algérie et il a parlé de crimes contre l'humanité. Et en même temps, là, il demande pardon et il prépare un projet de loi pour réparer, avec des réparations évidemment financières, pour excuser la France du traitement qu'elle a infligé aux harkis. On est toujours entre la repentance et... c'est vrai que du coup, il y a un manque de crédibilité quoi, dans les actions d'Emmanuel Macron. Mais n'oublions pas qu'il y a Gérald Darmanin qui est d'origine harki et qui va évidemment influencer le président de la République sur ce point-là.
Oui. Elisabeth. Patrick et Elisabeth. Ouais. Elisabeth. Ouais. Après. Oui. Patrick.
Oui. Je veux dire quelque chose de ce que vient de dire Lydia là. J'ai écrit avec Madame Rampal, que vous connaissez tous, hein, qui est l'adjoint d'Estrosi, qui s'occupe des pieds noirs. Oui. Et je lui ai dit, écoutez, madame, je la connais pas, hein, j'ai écouté, madame, je ne comprends pas, monsieur Estrosi est ami avec monsieur Macron, qui monsieur Macron nous déteste, et vous êtes une pied noire, tout. Elle m'a dit, mais croyez bien, que chaque fois que monsieur Estrosi rencontre monsieur Macron, il lui dit du bien des pieds noirs, il explique à monsieur Macron qui vous êtes pas des colonialistes, les harkis, donc il faut expliquer à qui on est, on est des Français! On est des Français. Et Elisabeth, elle le sait aussi. Je suis juif comme elle le sait bien, notre histoire. On connaît tout ça. On y croit pas. Enfin, on croit pas en Macron. Ouais, c'est ça l'histoire, finalement.
Elisabeth,
Moi, je voulais juste retaper sur ce clou-là, si vous voulez. Moi, cette phrase sur la colonisation est un crime contre l'humanité, mais restée en travers de la gorge, exactement comme il n'y a pas, comme il n'y a pas de culture française. Donc, c'est ce que je redis un peu ce que j'ai dit ce matin, si vous voulez. Mais ça me paraît quand même très curieux de dire que c'est un crime contre l'humanité et de venir plusieurs années après dire aux gens si la colonisation est un crime contre l'humanité, les harkis étaient complices de ce crime, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose de tellement... c'est ce que je vous ai dit, c'est tout le temps une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. Donc,
merci Patrick, vous continuez de réagir.
C'était un grand plaisir.
Oui,
au revoir Patrick.
Pas au revoir à tous les auditeurs. Hein. Venez, rentrez. 0826-300-300, évidemment, avec Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy. On va accueillir aussi Serge Raffi dans un instant, qui nous parlera politique. Il connaît parfaitement, évidemment, le sujet, les arcanes, depuis longtemps. Et là, il a enquêté sur Anne Hidalgo, qui est est vraiment convaincu et qui y va tout droit pour cette présidentielle, même si c'est pas encore complètement fait, bien sûr. Et puis les autres sujets qui sont sur la table, comme la crise, bien sûr, avec les Américains. Et tout à l'heure aussi, dans la France à vos côtés, restez avec nous, Cécile, parce qu'il y aura un document. Nous reviendrons sur ce qui s'est passé il y a 20 ans, jour pour jour.
Et puis on reviendra sur ce combat judiciaire qui a duré 18 ans, qui n'est pas terminé encore, puisque beaucoup de gens aujourd'hui revivent cet événement avec... Ça a une portée très importante dans les familles. On aura une sinistrée, Pauline Miranda, qui est avec nous, qui a monté une association sur tous ces sinistrés de France, un syndicaliste qui lui veut revenir sur son combat face à Total. Et puis l'avocate des familles endeuillées, Stella Bisseuil, sera avec nous pour nous raconter justement ce combat judiciaire. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio et ce sera à partir de 9h30.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h02, c'est la suite des grands débats. On va revenir bien entendu sur ce triste anniversaire de l'explosion de l'usine AZF à partir de 9h30 avec un document exclusif de Christine Bouillot et bien sûr des témoignages tout au long de cette matinée. Vous pourrez d'ores et déjà nous appeler au 0826 300. Avec nous ce matin, nos éditorialistes du jour, Elisabeth Lévy, Lydia Guérous et Serge Raffi pour ce livre incroyable. Rédacteur en chef de l'Obs et scénariste, écrivain, Anne Hidalgo, une ambition qui vient de loin aux éditions du bouquin.
Oui, bonjour Serge Raffi.
Bonjour.
Donc on voit véritablement que ce n'est pas du hasard la candidature d'Anne Hidalgo. Hein. C'est pas venu en fait comme ça. C'est vraiment elle l'a travaillé en quelque sorte. C'est une femme qui est déterminée. Non mais c'est ce qui apparaît dans
vous
votre
savez,
livre. Quoi,
en présence de Lydia Guérous, je peux vous dire une formule politique assez classique, c'est qu'il y a la constance, mais aussi les circonstances. Or là, en l'occurrence, il y a une constance, ça c'est sûr, chez Anne Hidalgo, c'est qu'au fond, elle a été happée par la politique, mais en fait, elle est rentrée presque par la fenêtre. C'est pas quelqu'un qui était fait pour la politique. Elle n'a pas fait l'ENA, elle n'a pas fait Sciences Po, elle n'a pas fait... C'est quelqu'un qui était plutôt dans le social, inspectrice du travail, mais qui tout doucement... Voilà. Par un concours de circonstances, justement, est entré en politique.
Avec Martine Aubry, quoi, bien sûr.
Martine Aubry a été sa marraine pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'elle était conseillère, une petite conseillère technique au ministère du Travail. C'était un membre de cabinet, assez discrète d'ailleurs, et qui tout doucement, Martine Aubry l'a remarqué. C'est toujours comme ça que ça se passe en politique. Et elle l'a promue, tout simplement. Et elle l'a même coachée pendant des années pour la faire rentrer tout doucement à la mairie de Paris, lui faire gravir les échelons, etc. Et elle est devenue vraiment une très très proche, une amie intime, ça a dégénéré par la suite, mais une amie intime de Martine Aubry, c'était vraiment son...
Ça a dégénéré ensuite.
C'était vraiment la chouchou pendant des années. Ouais. Simplement, aujourd'hui, elle est entrée, si vous voulez, dans la dernière ligne droite, la plus dure, évidemment, la même la plus féroce, qui est celle de la candidature à la présidence de la République. Un peu pas forcée, mais ce n'est pas une ambition naturelle. L'ambition, elle est arrivée, mais elle est arrivée par, en fait, la base du Parti Socialiste, des nouveaux élus, des cadras qui ont gagné au municipal et qui s'étaient réunis après leur victoire. Ils se sont réunis sans penser du tout à Anne Hidalgo. Et ils se sont réunis, donc le maire de Montpellier, Carole Delga, etc., toute cette nouvelle génération de cadres socialistes, qui ne sont pas des apparatchiks, et qui ont dit qu'est-ce qu'on fait pour sauver ce parti et pour sauver finalement le mouvement social-démocrate. Il nous faut quelqu'un pour incarner. Ils ont cherché, ils ont réfléchi, ils se sont réunis pendant plusieurs semaines, et ils ont, comment dirais-je, sollicité Anne Hidalgo, qui n'avait pas une envie féroce, d'aller à la présidentielle, mais elle a finalement été convaincue par eux.
Oui, et ensuite, on voit bien qu'elle est déterminée dans ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est rentrée en politique, c'est là où je voulais en venir, et ben elle y va, et puis rien ne doit se mettre sur sa route, elle se débrouille. Elle a
comme
beaucoup de difficultés.
Comme beaucoup de femmes en politique, il faut qu'elle sait qu'elle soit inoxydable, parce que c'est bien plus dur pour une femme de faire de la politique que pour un homme.
Oui.
Et si vous voulez, elle a pris beaucoup de coups, et moi-même, en travaillant sur ce livre, j'étais même surpris par le caractère dur.
Ah ben, non mais vous allez nous raconter deux, trois choses. Elisabeth Lévy, Elisabeth, oui.
Bonjour Serge,
rebonjour Elisabeth.
J'ai pas lu votre livre depuis hier, mais je me réjouis de le faire.
Comment vous n'avez pas passé la nuit à le lire?
Je suis navrée. Mais y a une chose, moi, qui me frappe avec Anne Hidalgo, si vous voulez, c'est que je ne me rappelle pas, et là je ne dis pas ça simplement parce qu'elle m'a volé des heures de ma vie et qu'elle continue.
C'est-à-dire dans la circulation, c'est ça?
Non, mais dans la Paris devient une ville dans laquelle il est très déplaisant de vivre.
Et ça, bon, déjà avant, triste. C'était un peu le cas, mais bon.
Non, excusez-moi, moi je suis une vieille parisienne.
Ah bon.
Et il y a quelque chose de terrible aujourd'hui dans la vie à Paris. Les gens sont sur les nerfs. Se déplacer pour aller travailler pour Madame Hidalgo, ça n'a pas de sens. Mais moi, ce qui m'a frappé depuis toujours, je n'ai jamais entendu Anne Hidalgo, si vous voulez, qui a épousé la novlangue progressiste avec une espèce de naïveté, de bonne volonté, vraiment totalement ridicule. Il faut quand même voir le jargon employé en permanence par la mairie de Paris. Si vous voulez, on tombe, c'est du Philippe Muret tout le temps. Et moi, je n'ai jamais entendu Anne Hidalgo dire autre chose que des banalités ou des énormités. Je n'ai pas une phrase intéressante, quelque chose de saillant qu'elle ait dit. Si vous voulez, alors franchement, que cette dame soit candidate à l'élection présidentielle et que sa dureté, son espèce d'assurance d'avoir raison, lui tienne lieu de personnalité politique, que ça me fascine, vraiment. Voilà. Bon. Je suis...
Serge Raffi, avant Lydia Guérousse.
Je ne suis pas un militant, donc je ne rentre pas dans ce genre de considération. Ce qui est sûr,
donc vous n'avez pas de jugement parce que vous n'êtes pas militant?
Non, pas du tout. C'est pas ça. Si vous me laissez parler, Elisabeth, je vais vous expliquer la vie.
Ouais.
Donc si vous voulez, moi ce que je peux dire, c'est que Anne Hidalgo, contrairement à ce que dit Elisabeth Lévy, elle a une doxa. Qu'elle ne plaise pas à Elisabeth Lévy, c'est tout à fait légitime. Mais par contre, si vous voulez, quand on regarde son parcours, ce qui est intéressant, même si c'est vrai que le côté novlangue est là et parfois est un peu agaçant, et ça, je reconnais que ça, c'est une vérité. Mais par contre, la manière dont elle s'est construite, c'est vraiment lié à l'urbanisation de la ville. Alors, il y a avec les défauts qu'Elisabeth a soulignés, mais l'idée, c'était qu'elle, quand elle devient maire de Paris, elle commence à s'intéresser vraiment aux problèmes urbains d'une manière très précise. Elle devient présidente du C40, c'est la fameuse organisation mondiale des plus grandes métropoles, et tous, en fait, épousent le même langage, c'est-à-dire que ce langage de la mairie de Paris qu'on entend aujourd'hui, qui était déjà celui de Bertrand Delanoë d'ailleurs, hein, c'est pas spécifique à Anne Hidalgo, eh bien ce langage, vous l'entendez partout dans toutes les grandes métropoles mondiales. Que disent ces gens-là? Ils disent qu'au fond, les États tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui sont en régression, ils sont beaucoup moins puissants, c'est une réalité. D'ailleurs, moi, je suis contre cette idée-là. D'ailleurs, je pense qu'il faut que les États soient plus forts, soient souples et puissants, qu'ils soient plus rapides, etc. Ça, c'est une vérité. Donc, l'idéologie qui est derrière la pratique politique d'Anne Hidalgo, c'est celui que les grandes métropoles aujourd'hui, les grandes métropoles mondiales, sont plus puissantes et sont plus capables d'aller plus vite pour lutter contre le réchauffement climatique, parce que le fond de toute la politique d'Anne Hidalgo, c'est celui de dire le réchauffement climatique, c'est ce qui va provoquer les pires migrations, la précarité sociale, etc. C'est le réchauffement climatique qui va accélérer tout ça. Donc, elle a une espèce de mission quelque part, et c'est vrai que je la traite même de Mère Teresa politique quelque part dans tout ça. Elle a une mission de lutter contre le réchauffement climatique pour se sortir du piège des inégalités sociales qui ne vont que s'aggraver à cause du réchauffement.
Oui, Lydia Guérousse.
Je trouve qu'on aime ou qu'on n'aime pas Anne Hidalgo, et je ne suis pas du même bord politique, elle imprime quand même sa marque finalement, et y compris à Paris. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les vélos, moi je déteste, je trouve que les vélos ne respectent pas le code de la route, ça m'exaspère, je ne supporte plus les trottinettes électriques. Néanmoins, elle a quand même transformé Paris, et je trouve que c'est important quand on est élu d'une ville, et quand vous allez en province, c'est vrai qu'on concentre les critiques sur la circulation à Paris. Moi, je me suis rendue à Bordeaux ou à Rouen, c'est exactement la même chose. Les centres-villes sont totalement fermés, il y a des trottinettes,
sur
du
les grandes
vélo,
villes, oui, bien sûr.
Qu'ils appellent,
ça a commencé même avant, avec Strasbourg, avec Nantes, bien sûr.
Et donc, du coup, quand on compare aux autres, on se dit que finalement, Anne Hidalgo, elle est dans cette tendance-là, et elle a imprimé quelque chose à Paris. Je trouve qu'elle a aussi une vision. Elle sort pas de nulle part, elle a une idéologie et il y a un élément, et je l'ai vu pendant la campagne des municipales, c'est que souvent on la sous-estime.
Oui.
Souvent on la sous-estime et on la voit comme la petite chose de que ce soit Martine Aubry, mais surtout de Delanoë. Elle s'est imposée, et même lors des débats, que ce soit face à Rachida Dati où il y avait Agnès Buzyn, moi j'ai vu une tueuse, une tueuse politique, froide et déterminée.
Oui, dans mon livre, je l'appelle d'ailleurs Miss Titane, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, plus elle prend des coups, et plus elle se relève.
Plus elle se renforce.
C'est quelqu'un qui a cette qualité-là. Mais pour revenir à ce que vous dites, la plupart des grandes villes françaises, par exemple les 30 km/h, moi je suis contre, je trouve que c'est une connerie, etc. Que 50 km/h, ça serait bien plus simple. Mais bon, c'est quelque chose qui a déjà été imposé dans d'autres villes françaises. Exactement. Bordeaux, par exemple, sous Alain Juppé. Oui. Instaurer les 30 km/h. Vous parlez de Bordeaux. Bordeaux est une ville où il n'y a pratiquement plus de voitures dans le centre-ville. Si vous êtes en voiture, c'est une catastrophe. Mais par contre, elle a été aménagée de telle manière que les mobilités douces, la fameuse novlangue dont parle Elisabeth Lévy, à Bordeaux, ça fonctionne.
Mieux qu'à Paris.
Parce que c'est pas le même modèle, c'est pas le même espace, etc.
Elisabeth. Elisabeth, vous voulez.
Non, mais pardon, d'abord, excusez-moi. Vous dites des choses contradictoires. Vous dites qu'elle imprime sa marque et en fait, elle fait comme tout le monde. C'est-à-dire qu'elle est dans cette espèce d'idéologie.
Dans le changement de Paris, Lydia, elle imprime sa marque.
Pardon, Lydia, si ça ne vous embête pas, je vais terminer.
Je vous laisse terminer, Elisabeth.
Voilà, merci. Elle fait comme partout en pire. Deux, si vous voulez, c'est purement de l'idéologie. Par exemple, c'est 30 km/h. On sait très bien que pour la pollution, c'est pas bien. Voilà. Et puis, ça va bien au-delà. C'est-à-dire que à Paris, en fait, Anne Hidalgo veut nous rééduquer. Elle veut rééduquer les gens. Et j'aimerais bien que vous me disiez ce que c'est que d'avoir 80 ans à Paris. Parce que vous voyez, les mobilités douces, quand vous avez 80 ans, vous ne prenez pas de trottinette. Elle s'en fout. Moi, je l'ai vue une fois. Et, si vous voulez, ce qui m'est apparu en 10 minutes, d'accord, un de ses conseillers voulait nous réconcilier, ça n'a pas très bien marché, c'est qu'en fait, elle était ravie de pourrir la vie des gens comme moi. Elle était enchantée, si vous voulez, quand je lui ai expliqué beaucoup de choses, je lui ai dit, j'en ai ras-le-bol de vos concerts gratuits, la place de l'Hôtel de Ville, gratuit, pas gratuit, parce que c'était pour la FNAC, en fait. Hein. Ouais. Mais, est-ce que vous avez une idée du bruit qu'il y a dans ce quartier? Ah, mais vous avez qu'à aller habiter ailleurs. Ici, c'est pour faire la fête. Eh bien non, une ville, c'est pas pour faire la fête, c'est pour vivre. Et elle pense qu'on est des résidus du vieux monde, et qu'il faut nous éradiquer, si vous voulez. Et quand vous m'expliquez, quand vous m'expliquez que la pauvre petite, moi je la prends pas du tout pour une petite chose, ses collaborateurs peuvent vous le dire, la mairie de Paris est une pétaudière, si vous voulez, c'est très difficile de travailler avec elle, hein, tout le monde le sait. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, moi je pense qu'elle a une espèce de méchanceté vis-à-vis des gens qui ne pensent pas comme elle, si vous voulez, c'est des gens qui doivent être éliminés.
Bon.
Non vraiment, alors c'est le
problème.
Est-ce que justement...
Non, Anne Hidalgo, c'est la seule personnalité politique pour laquelle je le reconnais.
J'ai
un sentiment personnel parce qu'elle se moque de notre vie.
Justement, Serge Raffi, est-ce que cette image qu'elle dégage, parce que présidentiable, à un moment donné, il faut une image aussi, et rassembler tous les Français, son côté parisien, son côté dur, son côté des mesures hyper drastiques, il y a beaucoup de férocité et de violence dans les propos, en tout cas, ou dans les actions d'Anne Hidalgo.
Surtout les réactions, vous l'avez entendu là.
Mais est-ce que ça va passer auprès des Français? C'est ça le truc.
C'est son problème principal.
Ouais.
C'est-à-dire que comment, quand on est maire de Paris, sauf quand on s'appelle Jacques Chirac, parce qu'au fond on est ancré.
On a de l'empathie en plus.
Oui, mais il y a surtout le fait qu'il était ancré sur une terre française, corrézienne. Chirac, il avait réussi ce tour de force extraordinaire d'être en même temps un énarque à Paris qui sentait le crottin. Donc ça, c'est une force extraordinaire, c'est-à-dire qu'il cochait toutes les cases. Anne Hidalgo, pour le moment, ne coche pas toutes les cases.
Non.
Politiquement, c'est une certitude. Donc ce travail qu'elle est en train de faire, qui paiera ou qui paiera pas, ça c'est pas moi, je suis ni son conseiller, moi c'est une biographie qui est totalement indépendante. Donc j'ai écrit de nombreuses biographies, et je peux vous dire que ce n'est pas un livre qui fait plaisir à tout le monde dans son entourage. Donc ça c'est une réalité. Mais sur le fond, elle a ce problème essentiel, et en plus de ça, même d'un point de vue politique, puisqu'elle a basé toute sa stratégie politique pendant des années sur cette idée des grandes métropoles qui se substituent à l'État, et d'ailleurs on l'a vu pendant la pandémie, où elle a pris des positions très dures contre l'État, contre les agences régionales de santé, etc., parce que souvent les collectivités locales ont beaucoup mieux réagi à la pandémie que l'État central, donc elle était sur cette ligne-là, simplement maintenant,
elle veut être la patronne
de l'État central, donc il va falloir qu'elle explique aux Français comment on passe d'une espèce d'apôtre des grandes métropoles mondiales à celui du terroir français, etc. Retrouver le chemin des territoires, ça va être sa problématique essentielle pendant cette campagne, si elle va au bout, parce que moi, je n'en sais rien, on ne sait pas ce qui peut se passer.
Pour l'instant. Et c'est vrai que les terroirs, elle ne vient pas des terroirs. Elle pourrait s'appuyer sur Lyon, où elle a vécu, etc. Et d'ailleurs, vous êtes allé sur place à Lyon. Métropole. Dans un instant, on se retrouve. Ouais. Et moi, j'ai noté quelque chose aussi dans votre livre, c'est que finalement, elle est peut-être plus proche de Nicolas Sarkozy que d'Emmanuel Macron. On va voir ça dans un instant. Oui.
Restez avec nous, vous voulez en parler, en tout cas, 0826.
Quelques révélations, quelques informations assez intéressantes dans
un
instant.
On vous attend au standard. Quel teasing, Patrick Roger, c'est fou, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h20, c'est la suite des grands débats. Il y a du débat ce matin avec Serge Raffi, qui est rédacteur en chef de l'Obs. Et pour ce livre, Anne Hidalgo, une ambition qui vient de loin, aux éditions du bouquin, avec Lydia Guirous et Elisabeth Lévy.
Oui, et vos appels au 0826-300-300. Et si vous voulez aussi témoigner, AZF, il y a 20 ans, c'était à 10h17, dans une heure, qu'il y allait avoir cette déflagration. On va revivre tout ça ensemble tout à l'heure à 9h30 dans La France à vos côtés, avec un document, vous verrez, de quelques minutes. Et ensuite, nous serons en ligne avec les associations et avec les victimes. Avant ça, je le disais, Serge Raffi, dans votre livre, on a l'impression qu'elle s'entend mieux avec Nicolas Sarkozy qu'avec Emmanuel Macron. Et ça date de l'époque où NKM cherchait toujours à se positionner, notamment pour la métropole de Paris. Hein.
Oui, c'est pas vraiment un scoop, mais c'est vrai que quand Anne Hidalgo va être candidate en 2014 à la mairie de Paris contre NKM, elle a reçu des conseils un peu éclairés de gens qui étaient plutôt favorables à NKM, en particulier Nicolas Sarkozy, en particulier même Rachida Dati, qui n'avait pas une grande amitié pour Madame Kosciusko-Morizet. Et donc, il s'est passé quelque chose, comme souvent en politique, c'est-à-dire que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais en même temps, au-delà de ça, il y a une relation. La relation de Nicolas Sarkozy avec Anne Hidalgo s'est faite sur le Grand Paris. Quand Nicolas Sarkozy devient président, il lance un grand débat, formidablement intéressant d'ailleurs à l'époque, sur le Grand Paris. Et Anne Hidalgo, donc, qui à ce moment-là est adjointe à la mairie, comment dirais-je, plonge dans cet espace pour aussi s'intéresser de très près à l'évolution de la grande métropole parisienne. Et donc, il va y avoir une relation qui va se tisser entre Nicolas Sarkozy et Anne Hidalgo, justement, sur le fait comment repenser les grandes villes. Et il va y avoir, c'est vrai, un lien qui va se tisser, qui s'explique, parce que Nicolas Sarkozy, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un macho, et il est un peu bluffé par les femmes politiques qui sont courageuses. Et il y a aussi une espèce de lien de classe entre Nicolas Sarkozy. Elle est fille d'ouvrier.
Oui.
Lui, elle n'est pas fils d'ouvrier, mais c'est quelqu'un qui est d'origine, qui n'est pas forcément... Il était un peu le comment dirais-je, à Neuilly, dans toute son enfance, il était un peu le petit chaud, celui qui était... Oui. Voilà. Et donc, ce lien de il a vécu, lui aussi, parfois, le mépris de classe. Et donc, quelque part, ça les lie tous les deux.
Ouais.
Et donc, ce lien, il va durer et il continue à durer aujourd'hui.
Ah oui, vous le ressentez un peu aussi, Lydia Guirous?
Je le ressens comme ça. Effectivement, Nicolas Sarkozy n'est pas issu du sérail, il n'a pas fait les grandes écoles. Il a subi un mépris de classe, un mépris aussi par rapport à ses études. Et quelque part, c'était un peu le métèque, comme Anne Hidalgo. Donc, ils peuvent aussi se rejoindre là-dessus, sur ce mépris qui a généré des blessures profondes, et qui a aussi généré une force chez eux.
Et les blessures avec Emmanuel Macron, là, du côté, cette fois, d'Anne Hidalgo, ça vient aussi de la fuite de avant la campagne électorale pour Paris. Beaucoup de gens qui sont partis, en fait, à l'Élysée, où elle a senti qu'il y a des trahisons.
Comment dirais-je, la relation difficile, c'est moins qu'on puisse dire, tempétueuse avec Emmanuel Macron, elle date de l'époque de François Hollande.
Oui.
Emmanuel Macron est ministre de François Hollande et il est tout ce qu'elle déteste. Il est narque, il vient de la banque Rothschild, c'est exactement l'inverse de son histoire. Donc il y a vraiment là aussi un antagonisme profond de classe entre Emmanuel Macron. Il a essayé de la cajoler, il a essayé de la séduire, oui, parce que c'est un envoûteur professionnel.
Vous le racontez, elle le dit, elle vous le dit.
Mais il y a ça, alors il y a le côté, non, cet homme-là, jamais il rentrera dans son cadre. Ouais. Mais par contre, il y a un deuxième aspect qui est très important chez elle, il ne faut jamais le négliger. Et Lydia Guirous a parlé, attention, on la sous-estime, etc. C'est que cette relation avec Emmanuel Macron, elle naît quand il devient président de la République, par une posture politique qui est toujours la même, qui est de dire, attention, Paris, c'est l'ennemi de l'État, c'est le rebelle, c'est l'enfant de la commune, etc. Ouais. Donc moi, je me positionne tout de suite sur une ligne très dure. Et d'ailleurs, rappelez-vous, au moment de l'investiture d'Emmanuel Macron à la mairie de Paris, elle fait un discours, moi-même, je lui avais dit d'ailleurs, c'est un discours d'une dureté, d'une violence, vis-à-vis du président de la République nouvellement élu, qui était quasiment une forme de rébellion, qui était très surprenante et qui était même presque désobligeante, si je puis dire, vis-à-vis de la figure du président de la République. Mais en fait, c'était purement politique.
Elle était déjà
sur une ligne politique dure par rapport à Macron.
Est-ce qu'elle avait déjà à l'esprit la prochaine présidentielle ?
Non, à ce moment-là, non.
Pas du tout.
Pas du tout. Non, c'était vraiment une réaction de classe et une posture politique. L'ambition, elle est très ambitieuse, mais moi, alors peut-être qu'elle m'a menti, comme tous les hommes politiques et les femmes politiques, ils peuvent mentir. Bonjour le lapsus.
Ouais.
Mais vous savez elle m'a toujours dit que c'est pas vrai. Pour les femmes aussi.
Mais oui, je sais. Mais moi, elle m'avait dit plusieurs fois, jamais je serai candidate à la présidence de la République.
Elle était sincère quand elle disait ça.
Parce que pour être candidat à la présidence de la République, il faut avoir une case bizarre, il faut être un peu cinglé, etc. Il faut avoir quelque chose que je pense ne pas avoir, etc. Et puis bon, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Et voilà, c'est arrivé un peu ce que je disais au début, constance et circonstances. Les circonstances l'ont un peu poussé. Et après tout, visiblement, elle a l'air de
pas trop... Les circonstances, c'est pas le désert qu'il y a à gauche aussi ?
Bien sûr, mais ça, évidemment.
Elisabeth, oui.
Non, mais moi, je vous trouve quand même très indulgent. Et surtout, il y a un peu du storytelling, si vous voulez. Anne Hidalgo, à chaque fois qu'on la critique, elle dit « Ah, c'est parce que je suis une femme et c'est parce que je suis d'origine espagnole. » Ce qui est quand même sidérant, si vous voulez. Personne ne la critique parce qu'elle est une femme, ni parce qu'elle est d'origine espagnole, évidemment. Deuxièmement, elle le dit. Ah. J'ai pas dit que c'est ce que vous aviez dit. J'ai dit « Il y a un peu un storytelling, elle a pris beaucoup de coups. Excusez-moi, elle en donne autant qu'elle en prend. Et son côté, moi, moi, ce que je constate surtout, si vous voulez, c'est qu'elle s'inscrit dans un mouvement où on a vu la gauche commencer à diriger les villes les plus riches de France. C'est-à-dire que Paris, Lyon, Bordeaux, maintenant, c'est quoi ? C'est à la fois une population de gens très aisés et les esclaves qui viennent pour garder leurs enfants, les servir dans les restaurants, faire ceci. Vous avez à Paris, évidemment, alors ça, je reconnais que c'est pas du tout, ça c'est, on peut pas...
Non mais attendez, les villes de gauche ne vous ont pas attendu, Elisabeth Lévy, Colomb, en fait, à Lyon, Hérault, à Nantes, il y en a beaucoup d'autres.
Non mais vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, c'est qu'à un moment... À un moment, la gauche, gauche est devenue le parti des bobos, si vous voulez, le parti des gens aisés. Marseille, qui était la seule, une des rares grandes villes, si vous voulez, qui était plutôt une ville populaire, où le centre-ville
était populaire. Mais qui était à gauche il y a 15 ans.
Et restée quand même à droite assez longtemps. Si vous voulez, vous avez une gauche qui est la gauche des bourgeois. Enfin, écoutez, ça se voit que la gauche n'est pas le parti des pauvres aujourd'hui.
On va conclure là-dessus, mais vous l'abordez d'ailleurs, sur l'apparition justement des bourgeois bohèmes et des bobos, comme vous le dites, dans votre livre.
Mais c'est la stratégie qui a été mise en place, et Elisabeth Lévy a totalement raison sur ce point-là. C'est-à-dire que c'est sous Bertrand Delanoë, c'est ce que la droite parisienne n'a pas compris.
C'est que
la gentrification de Paris, elle existe, elle est là depuis 15 ans. Et donc la victoire de Bertrand Delanoë, elle est complètement liée à ça. Et là où Elisabeth Lévy a aussi raison, c'est que cette novlangue qu'on a vu apparaître sous Delanoë, c'est pas la marque d'Anne Hidalgo, ça. Hein, même si elle a un peu poursuivi, mais elle le fait moins même que... ça, c'est une réalité, et c'est ce que la droite... parisienne, et même peut-être ailleurs, n'a pas compris, c'est l'évolution de la société dans laquelle on est entré. Peut-être qu'elle ne plaît pas à certains, mais c'est la réalité politique.
Ouais. Bon, bah merci.
Elle a été élue par 17% des électeurs, quand même.
Tout arrive.
Elle est capable de partir en week-end.
Tout arrive. Serge Raffy et Elisabeth Lévy, pour une fois, sont d'accord sur quelques points. Bah, dites donc, alors là, c'est vraiment... C'est un miracle. Merci Lydia Guirous, merci aussi Elisabeth. À vous. 0826 300 300, nous devions border aussi avec Félix Mathieu, l'autre sujet de la crise qui continue avec les Américains. Mais évidemment, là, on était pris par cette discussion passionnante quoi, autour de ce livre, Une ambition qui vient de loin. Et dans un instant, Cécile ?
Eh ben, c'est le jour J, un triste anniversaire, hein, vous savez, pour la catastrophe AZF à Toulouse. On reviendra dans une enquête, une grosse enquête menée par Christine Bouillot. Et puis, on en parlera ce matin avec l'avocate des familles endeuillées, Stella Bisseuil sera avec nous, et puis avec des sinistrés.
Oui, sinistrés et des acteurs, en fait, évidemment, de ce dossier d'AZF, l'enquête depuis 20 ans, juste à 10 ans, car après, le retour, hein, ce sera un retour très sonore avec des témoignages de l'époque dans un instant avec Christine Bouillot.
À tout de suite.